Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
Vous êtes bien sur RMC, c'est l'Intégral Sport qui se poursuit. RMC, le temple du sport en live à la radio, tour d'horizon de l'actualité sportive du jour et du week-end. On est ensemble en direct jusqu'à 19h avec un beau programme. Les qualifs du Grand Prix de Hongrie, vous venez de les vivre en direct sur l'antenne. C'est de la F1 évidemment. On est avec Jean-Luc Roy pour faire un point sur la grille de départ et cette pole position surprise de George Russell, le pilote Mercedes qui a devancé les Ferrari. Max Verstappen et sa Red Bull ne sont que 10e. C'est une surprise, on débriefe ça dans un instant. On sera à l'arrivée de la 7e étape du Tour de France femme. Ce sera avec Valentin Jamin aux alentours de 17h30. Et puis du foot, bien sûr, le mercato show. Et surtout le retour des compétitions de clubs. Les premiers matchs officiels de la saison avec la première journée de Ligue 2. Saint-Etienne s'est incliné à Dijon, 2-1. 8 rencontres à suivre à partir de 19h autour de Benoît Boutron. On ira notamment suivre l'avant-match du côté de Bordeaux, repêché in extremis en Ligue 2 cette semaine. Bordeaux qui reçoit Valenciennes. On vous fera vivre l'avant-match à Bastia, au Havre, à Metz également. Voilà un programme chargé qu'on entame tout de suite, l'Intégral Sport. Ça continue tout de suite sur RMC. Avant de débriefer les qualifs de Formule 1, on file dans le Pays Basque espagnol du côté de San Sébastien. Retrouver Arnaud Souk, c'est l'arrivée de la Clasica San Sebastián.
Et absolument, absolument Simon, salut à toi, salut à tous.
Salut Arnaud.
12,2 km 500 effectivement encore à parcourir pour l'homme de tête qui s'est extrait, on va dire, du groupe des favoris. Il y a déjà belle lurette hein, puisqu'on était dans l'Erlaïds, on était placé à 45 km de l'arrivée. Depuis, le Belge Remco Evenepoel fait cavalier seul, il a lâché ses adversaires les uns après les autres, Simon Yates et Pavel Sivakov qui ont été les plus récalcitrants et Pavel Sivakov qui occupe actuellement le français la deuxième position de la course mais qui est à 2 minutes 24 de Remco Evenepoel, alors que Evenepoel justement est en train d'arriver là où le Tour de France l'an prochain lors de sa deuxième étape et bien passera justement sur la magnifique baie de Saint-Sébastien. On vous conseille le détour si jamais vous ne connaissez pas ce magnifique lieu, cette magnifique ville du Pays Basque espagnol. Et Simon, tu peux admirer j'imagine les images de cette baie avec ces magnifiques bâtiment espagnol. Rappelez aussi Simon que cette classique San Sebastián est quand même l'un des principaux rendez-vous d'un jour calendrier cycliste international. C'est un rendez-vous mythique, tu le dis toi-même, c'est un rendez-vous sur lequel se sont imposées des pointures du type Adri Van Der Poel, le papa de Mathieu Van Der Poel, du type Miguel Indurain, 5 fois vainqueur du Tour de France, du type Claudio Capucci, l'italien, du type Lance Armstrong, même si c'est vrai qu'Armstrong après coup a quand même été largement déchu de son palmarès. Laurent Jalabert également s'est imposé à deux reprises sur cette course. Alejandro Valverde, Tony Galopin, Michał Kwiatkowski, Julian Alaphilippe ou encore Adam Yates. Et Remco Evenepoel, lui, s'était imposé justement en 2019 sur cette Clasica San Sebastián. Eh bien, il va faire coup double puisque dans quelques instants, il pourra prendre un virage sur la gauche et arriver sur l'ultime boulevard, l'ultime ligne droite. Voilà, il serre déjà le point parce qu'il sait qu'il a 2 minutes 13 d'avance. Remco Evenepoel sur le français Pavel Sivakov. Remco Evenepoel qui va tourner à droite et qui va franchir, je ne sais pas si on a le petit jingle, la flamme rouge. Et on n'a pas le jingle, mais c'est
on
pas
l'a
grave.
Pas, on l'a pas pour les classiques, mais écoute.
On l'a pas pour les classiques, mais comment ça
Écoute, alors tu nous as pris un peu de cours, hein, Belge de la Quick Step qui nous a pris de cours. Juste avant qu'il franchisse la ligne, je dis pas de bêtises, il était l'un des favoris, si ce n'est le favori de cette classique.
Il était l'immense favori, Remco Evenepoel, pour cette classique. On se demandait un petit peu ce qu'allaient donner les coureurs qui avaient couru le Tour de France. Tadej Pogacar, notamment, David Godu, ou d'autres pointures du Tour de de France comme Matej Mohoric ou Jonis Zagir, et bien pour eux ça a été très compliqué aujourd'hui. Ils ont eu beaucoup de mal. On a senti que forcément les trois semaines de compétition qu'ils ont conclues dimanche sur les Champs-Élysées à Paris avaient fait beaucoup de mal. Il parle dans sa radio de Remco Evenepoel. Il est en train de remercier tout le monde, le sourire à 500 mètres de la ligne, le point serré pour le jeune Belge qui va remporter dans quelques instants la 33e victoire de sa carrière et qui va lancer idéalement son été en vue d'un objectif majeur, celui du Tour d'Espagne. Le voilà, le dernier virage à gauche pour Remco Evenepoel derrière Pavel Sivakov, lancé également dans un effort solitaire, et il fait le show. Remco Evenepoel, il demande à tout le monde de l'acclamer. Il met ses doigts à l'oreille comme pour dire je ne vous entends pas. Il est un petit peu le maître, il va devenir en tout cas l'un des maîtres de cette classique à Saint-Sébastien, puisqu'il va inscrire pour la deuxième fois de sa carrière son nom au palmarès. Il est ici chez lui, Remco Evenepoel, et quelques semaines après avoir remporté Liège-Bastogne-Liège, voilà qu'il remporte encore une très belle classique en cette saison 2022. 33e victoire en carrière pour le Belge Remco Evenepoel, dans quelques instants arrivé du Français Pavel Sivakov qui sera deuxième.
Formidable démonstration du Belge. Tu disais quelle saison il réalise, le Belge de la Quick-Step. 22 ans seulement, on a tendance à l'oublier, c'est quand même l'un des phénomènes du cyclisme mondial. Et effectivement, c'est bien Arnaud Valadon le soulignait tout à l'heure, de se rendre compte qu'effectivement après un Tour de France aussi éprouvant, eh ben c'est compliqué d'enchaîner directement sur une course aussi éprouvante que la Classica San Sebastian. Arnaud Souk nous a bien vendu la baie de San Sebastian. Si vous avez l'occasion de monter au Monte Igualdo, vous n'hésitez pas pour admirer tout ça. Effectivement, on se réjouit d'avance de ce départ du Tour de France 2023 dans la baie de Saint-Sébastien. Merci beaucoup Arnaud, on a vibré encore une fois dans ces derniers kilomètres avec toi. La Classica Saint-Sébastien donc remportée pour la deuxième fois de sa carrière par Remco Evenepoel, le Belge de la Quick-Step. Merci beaucoup Arnaud et à très vite sur l'antenne de RMC. De la Classica Saint-Sébastien au Tour de France Femmes, on va filer dans les Vosges retrouver Valentin Jamin. Cette 7e étape, Valentin, qui pourrait bousculer, qui est en train de bousculer la hiérarchie au classement général avec une Hollandaise qui est peut-être en train de remporter la course, tout simplement.
Le tour a basculé effectivement et ce n'est pas une grande surprise. Annemiek van Vleuten, la Néerlandaise de 39 ans, grande favorite de ce Tour de France, qui a attaqué lors de la première montée le col du Petit Ballon. C'était à près de 80 km de l'arrivée. Elle a emmené dans sa roue une seule fille, Demi Vollering, sa compatriote, qu'elle a d'ailleurs distancée lors du deuxième col de première catégorie. Bref, Annemiek van Vleuten est à 9,8 km de l'arrivée. Elle va en finir avec la dernière ascension, celle du col du Grand Ballon. Demi Vollering est à 3 minutes 40 derrière et à 6 minutes 20 de la tête. Il y a un groupe avec notamment une Française, Juliette Labousse, qui était 7e ce matin au général, qui pour l'instant s'accroche bien. Il y a la 2e ce matin au général, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma. Sylvia Persico, qui était 3e, est en train un petit peu de lâcher dans ce groupe, donc c'est bien pour la Française Juliette Labousse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le maillot jaune sera ce soir sur les épaules d'Annemiek van Vleuten, puisque Marianne Vos, qui l'avait ce matin, est à plus de 20 minutes. Ce n'est pas une grimpeuse, donc Van Vleuten de la Movistar en train peut-être de gagner ce Tour de France. Il reste encore 9,7 km pour elle.
On savait que ce serait compliqué pour Marianne Vos de conserver son maillot jaune malgré sa démonstration d'hier sur un terrain qui lui était évidemment beaucoup plus favorable, mais c'est vrai que Van Vleuten, elle avait du retard sur Vollering au classement général, mais avec son avance effectivement elle est en train de quasiment de s'assurer la victoire. On verra évidemment comment ça se passe demain du côté de la super planche des belles filles. Valentin, on va te retrouver dans un instant dans l'Intégral Sport pour suivre avec toi en direct l'arrivée de cette septième étape qui a vu le classement général chambouler le Tour de France Femmes qui est en train de basculer. Vous le vivez en direct sur RMC. On se retrouve dans un instant pour vivre la fin de la septième étape et surtout pour débriefer également les qualifs du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie. Jean-Luc Roy patiente, il fomente ses arguments parce qu'on a livré George Russell, l'anglais de Mercedes, première pole position de sa carrière. Première fois cette saison qu'une autre monoplace que Ferrari ou Red Bull partira en tête lorsque les feux s'éteindront demain à 15h sur le Hungaroring. Vous restez bien avec nous, l'Intégral Sport revient dans un instant.
RMC Intégral Sport,
Simon Dutin.
17h20, vous êtes bien sûr à RMC, c'est la suite de l'Intégral Sport. Évidemment, on suit tous les événements en live. Ça a bousculé un petit peu notre conducteur. On a suivi l'arrivée, la victoire en live de Remco Evenepoel, le Belge de la Quick-Step qui s'est imposé pour la deuxième fois de sa carrière dans la Classica San Sebastian, le Belge qui a écœuré tous ses adversaires. Certains d'entre eux étaient un petit peu émoussés par le récent Tour de France si éprouvant. On retournera dans un instant sur la ligne d'arrivée de la 7e étape du Tour de France Femmes, parce que ce Tour de France Femmes est en train de basculer. On va peut-être proposer aux organisateurs de troquer le maillot jaune de leader du général contre un maillot orange, hein, parce que ça se joue entre coureuse hollandaise Marianne Vos, qui était leader au général, est en train de perdre sa première place au profit de Annemiek van Vleuten, qui est en train de réaliser un festival et de combler son retard sur Demi Vollering, une autre hollandaise qui l'a devancée au classement général. On fait un point avec Valentin Jamin dans un instant, mais pour l'instant, comme promis, on va débriefer ses qualifications du Grand Prix de Hongrie demain, 13e manche d'une saison toujours dominée par un Max Verstappen décevant. On va y revenir avec toi, Jean-Luc Roy, notre king des sports auto sur RMC. Verstappen décevant, mais avant ça, on est du coup à Budapest, un Grand Prix de Hongrie sur le Hungaroring, après le Paul Ricard au Castellet la semaine dernière. Jean-Luc, c'est George Russell, le pilote britannique de Mercedes, qui a signé la pole position. C'est une surprise, hein, voilà, tout simplement.
Ah, énorme surprise, Simon, tu as raison de le souligner, parce que les Mercedes ne s'étaient pas du tout montrés à leur avantage, ni sur les tours rapides, donc avec peu de carburant, ni sur les tours avec une charge de carburant plus importante. Ça, on saura en course ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on a fait du sandbagging, je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'on a masqué un petit peu son jeu en réalisant des performances avec un volume de carburant, donc une masse de carburant, en sachant que dès qu'on enlève 15 ou 20 kilos, eh bien, on gagne un certain de dixième. Je commence à le croire un petit peu quand même, parce que là, ça fait beaucoup. Donc, est-ce qu'on a voulu évidemment surprendre un petit peu tout le monde ? Parce que là, bon, c'est vrai que la performance de Lewis Hamilton, à l'inverse, est un petit peu décevante. Il a dû être gêné ou se rater un petit peu. Je crois qu'il a eu un problème de DRS dans sa deuxième tentative qui l'a empêché de bénéficier totalement de la performance de la Mercedes. C'est la raison pour laquelle il n'est que septième à plus de 7 dixièmes de son équipier. Mais alors, George Russell, là, c'est vraiment absolument sidérant. On les avait pas vu si bien placé depuis très longtemps. Ça veut dire aussi que tout le travail qui est mené évidemment par la très puissante équipe Mercedes, il faut le rappeler, c'est quand même l'une des deux équipes ou les trois équipes les plus puissantes du plateau, eh bien il porte ses fruits et des améliorations. Là on parle plus de porpoising, tu sais, le fameux marsouinage.
Le marsouinage, formidable.
On aimait bien ce mot.
Ah, quel ce terme magnifique.
Là on l'a oublié. Et donc Russell, alors j'ai regardé, sa meilleure perf en qualification, c'était deuxième lors du deuxième Grand Prix de Bahreïn en 2020, une saison atypique. Tu le sais, à cause évidemment de la pandémie. Il bénéficiait de la Mercedes de Lewis Hamilton qui était malade, qui avait justement le Covid, et c'est un Grand Prix qu'il aurait dû gagner si, malheureusement, je le dis avec une pointe d'humour évidemment, Mercedes n'avait raté deux fois sa stratégie et avait fait perdre le Grand Prix, disons-le clairement, à Russell, qui aurait pu le remporter à ce moment-là. Donc c'est du coup Bottas qui l'avait gagné, mais le talent de Russell, on le connaissait depuis longtemps, et ben ça fait plaisir de voir un jeune pilote de 24 ans seulement décrocher une nouvelle pole, un nouveau poleman en Formule 1.
Ce qu'on connaissait mais qu'on n'avait pas vu depuis longtemps également, c'est le sourire de Toto Wolff, le patron de Mercedes, oui, qu'on a vu exulter là dans la réalisation internationale, content le boss de Mercedes. George Russell, finalement, Jean-Luc, bah, qui confirme malgré tout que bon, il s'en sort mieux quand même avec cette Mercedes que son illustre coéquipier Lewis Hamilton.
Oui, alors dans toute la première partie de la saison, on va dire jusqu'au 7e Grand Prix, effectivement la domination de George Russell sur Lewis Hamilton était même un petit peu inquiétante pour ce qui concerne. Moi, j'ai parlé un petit peu de chute de motivation parce qu'il avait joué un jeu dangereux, Hamilton, pendant l'hiver, en décrochant totalement de la Formule 1, vexé qu'il était de ne pas avoir décroché le titre, etc. Il avait coupé toute relation avec la F1, il est revenu. Est-ce qu'il a eu un petit peu de mal à se remettre dans le jeu avec, certes, une monoplace difficile à piloter, difficile à mettre au point, mais bon, comme tu viens de le souligner, le premier adversaire, c'est toujours l'équipier. Or, le jeune George Russell, qui débarquait chez Mercedes, faisait notablement mieux que Lewis Hamilton, quand même septuple champion du monde. Et là, on a l'impression, on a le sentiment que depuis 4 Grands Prix, d'ailleurs Hamilton a terminé sur le podium, terminé deuxième même du Grand Prix de France, évidemment il a fallu que ça dégage un petit peu devant, mais bon, ça fait partie du jeu en Formule 1. Donc Hamilton a retrouvé la niaque, sauf là. Alors, encore une fois, il avait un problème de DRS, hein, c'est ce qu'il a annoncé. Pour sa deuxième tentative, il n'a pas pu améliorer. Mais bon, le boss, là, c'est Russell qui, alors, avec un écart quand même minime, hein, 44 millièmes seulement d'avance sur la Ferrari de Carlos Sainz, et Charles Leclerc n'est pas loin derrière.
Sainz 2, effectivement, Leclerc 3. L'énorme surprise, c'est d'abord l'élimination de Pérez en Q2. et Verstappen, dixième seulement, le leader du championnat du monde, le champion du monde en titre. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Luc ?
Alors, pour Pérez, déjà, on a un semblant d'explication donnée par le pilote. Dans sa deuxième tentative, il a semble-t-il été gêné par une as. Bon, ça fait partie du jeu. On sait qu'effectivement, on a 20 pilotes, évidemment, en Q1. On n'en a plus que 15 sur la piste lors de la Q2. Ça fait encore un petit peu de monde, comme le tracé ne développe que 4 km 381. Après, ce sont évidemment toujours évidemment des excuses que l'on avance. Alors, Pérez, c'est surtout que sa première tentative en Q2 était excellente. Il était même parmi les trois plus rapides. Et puis, on l'a annulé. Pourquoi ? Parce qu'il avait dépassé un petit peu les limites de la piste, était au-delà de la ligne blanche à la sortie du virage numéro 5. Et manifestement, le pilote mexicain n'a pas été en mesure de réitérer cette performance. Alors, bon, il faut toujours trouver des explications à défaut d'excuses. Voilà pour Pérez. Quant à Verstappen, on peut se perdre en conjecture. Apparemment, il n'avait pas la puissance disponible. Tu sais, après, c'est tellement complexe parce qu'il y a la puissance, évidemment, du moteur thermique. Ça, on connaît à peu près quand même le 1600 cm3 V6 turbo. Mais il y a la puissance électrique. Alors, est-ce qu'il y a eu un petit problème quelque part c'est pas un joli mot, mais pour moi ça correspond assez bien, de régurgitation de la puissance électrique dans le tour le plus rapide. En tout cas, c'est vrai que c'est une surprise et ça peut redistribuer les cartes parce que effectivement, outre la Mercedes de Russell, on a les deux Ferrari quand même, deuxième et troisième, avec une particularité, si tu veux bien, Simon, c'est que la pole à Hongrie n'est pas toujours un avantage parce que on ne la place pas sur le bon côté de la piste, celui qui est nettoyé. Donc paradoxalement, c'est parfois le pilote qui figure en deuxième position sur la grille qui peut réaliser un mauvais départ. Alors pour ça, faudra encore que les conditions météo soient là, hein, parce que tu l'as compris, là c'est un petit peu la roulette hongroise. On ne sait pas trop si on va avoir une course sèche ou sur piste humide.
Réponse demain à 15h lorsque les feux s'éteindront sur le Hungaroring. Déception pour les Red Bull, les Ferrari à peu près à leur place. Norris sur la McLaren quatrième, belle qualification des McLaren qui sont toutes les deux, qui étaient toutes les deux en Q3. La belle perte, c'est pour Ocon qui s'était imposé l'an dernier, et pour Alonso, les Alpines 5 et 6 demain.
C'est très très bien, effectivement. Alors les McLaren, on s'y attendait un petit peu parce que lors de la deuxième séance d'essai libre, la FP2 sur piste sèche, et même il faisait très chaud hier, Lando Norris avait signé le deuxième temps et Ricciardo le cinquième. Tu vois, on les retrouve là, quatrième et neuvième. Bon, c'est dans la logique absolue. Et puis tu parlais des Alpines, bien groupé sur la troisième ligne avec Esteban Ocon juste devant Fernando Alonso. Ça confirme les progrès de l'équipe française qui s'est emparée, tu le sais, de la quatrième position au classement général provisoire des constructeurs à l'issue du Grand Prix de France. Et Esteban, c'est le tenant du titre ici en Hongrie. Alors, il avait fallu des circonstances particulières l'an dernier avec le strike de Bottas au premier virage du premier tour. Mais bon, ça n'enlève rien au talent. Alors, lutter pour la victoire, peut-être pas, mais une place pourquoi pas sur le podium, hein. Ça peut se produire, surtout en Hongrie.
Et Pierre Gasly éliminé en Q1 qui confirme malheureusement malgré lui que son AlphaTauri n'est peut-être pas au niveau de la saison dernière. George Russell, le pilote britannique qui a donc signé la première pole position de sa jeune carrière, le pilote Mercedes qui partira en pole position donc demain devant les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc. Lando Norris complète cette deuxième ligne, Ocon, Alonso en troisième ligne, Verstappen dixième. Le départ de ce Grand Prix 15h, tu seras en commentaire évidemment demain.
Bien sûr, avec Denis Chevrier.
Avec Denis Chevrier, évidemment, ton nouveau compère sur RMC.
Et je précise, trois nouveaux polemen dans la saison. Quand même remarquable. Hein. Sergio Pérez, qui n'avait jamais signé la pole et qui est parvenu à la signer en Arabie Saoudite. Et puis on a Carlos Sainz en Grande-Bretagne. Et on en a un nouveau. C'est génial, la Formule 1.
C'est formidable. Demain, 13e manche d'une saison de F1 toujours aussi passionnante. Verstappen, le champion du monde en titre et leader du classement général, partira en 10e position. On va se régaler une nouvelle fois. Merci beaucoup, Jean-Luc, d'être venu
à
nous éclairer pour ces qualifs et ce débrief dans l'Intégral Sport. On se quitte quelques instants et on repart sur la route du Tour de France Femmes, cette 7e étape qui a vu le classement général basculer. On retrouve Valentin Jamin dans un instant, vous ne bougez pas.
RMC Intégral Sport,
Simon Dutin.
17h33, c'est le retour de l'Intégral Sport. Ça se poursuit jusqu'à 19h. Et même après, vous retrouverez la première journée de Ligue 2 en direct autour de Benoît Boutron. Mais on va tout de suite filer, nous, dans les Vosges, du côté de Le Markstein. Retrouver Valentin Jamin sur la ligne d'arrivée d'une 7e étape. Valentin, qui a vu ce Tour de France Femmes 2022 basculer, tout simplement.
Avec Annemiek van Vleuten, effectivement, la néerlandaise de l'équipe Movistar qui passe à l'instant sous la flamme rouge.
RMC, la flamme rouge.
Annemiek van Vleuten qui est partie à 60 km de l'arrivée toute seule. Elle a attaqué dans la deuxième montée de cette 7e étape le col du Plat de Servazel en première catégorie. Elle avait déjà attaqué lors de la première montée, s'isolant avec sa compatriote Vollering. Elle a donc distancé lors de cette deuxième montée. Elle a le sourire, Annemiek van Vleuten, puisqu'elle a plus de 3 minutes d'avance maintenant sur sa compatriote Demi Vollering, qui avait essayé de s'accrocher, qui avait réussi à s'accrocher, mais rien à faire face à la leader de la Movistar, donc de 39 ans, néerlandaise, lauréate du Giro cette année, déjà lauréate de la course italienne en 2018, en 2019, donc en 2022, et qui pour l'instant est en train de récupérer le maillot jaune, de récupérer le maillot à poids, de gagner cette étape. Elle va se présenter ici au Markstein dans quelques instants, et peut-être de gagner le Tour de France avant la 8e et dernière étape demain. Donc je vous disais, Demi Vollering qui la suit à près de 3 minutes, et puis ensuite on a un groupe de 3 coureuses à 5 minutes 40 de la tête de course, et dedans, eh bien il y a la Française Juliette Labousse, 7e au classement général ce matin, qui va faire un top 5 aujourd'hui, qui sera top 5 au classement général et qui pourra pourquoi pas rêver d'un podium sur la planche des belles filles lors de la dernière étape magnifique. Juliette Labousse qui est en compagnie de la Polonaise Katarina Niewiadoma et de Cécile Utrup-Ludwig. Mais pour l'instant, Annemiek van Vleuten est en train d'arriver, l'immense sourire de la championne qui était malade en ce début de Tour de France. Vous l'entendez peut-être derrière moi, on tape sur les panneaux, l'ovation, on acclame Annemiek van Vleuten avec évidemment l'arc-en-ciel sur les manches, puisqu'elle a aussi été championne du monde, elle a aussi été championne olympique. C'est une championne tout terrain, forte en contre-la-montre, forte sur route, forte en montagne. Annemiek van Vleuten consacrée ici au Markstein. Elle lève les bras, victoire d'Annemiek van Vleuten ici au Markstein pour cette 7e étape du Tour de France femme. Elle va prendre le maillot jaune à Marianne Vos qui est plus de 20 minutes derrière. Elle serre le point, victoire de van Vleuten ici. On attend Demi Vollering sur la ligne, sa compatriote, d'ici 3 minutes.
Oui,
effectivement, il va y avoir de gros écarts. Hein. Simon, il va y avoir de gros écarts. C'est pas forcément une surprise pour en avoir parlé aussi avec certains directeurs sportifs français. On savait qu'Annemiek van Vleuten était capable d'attaquer de très très loin. Et on nous avait même dit, si elle attaque pas dans les deux premières montées, c'est qu'elle n'est pas bien. Et bah boum, première montée, Annemiek van Vleuten a mis tout le monde d'accord. Voilà, c'est pas comme le cyclisme masculin. Hein. Faut aussi expliquer, c'est plus débridé. Il y a plus d'écarts de niveau entre les filles. Et Annemiek van Vleuten est ce genre de coureuse qui n'a pas peur d'attaquer de très très loin, et elle va faire de gros écarts au général. Demi Vollering arrivera d'ici peut-être maintenant. Allez, ça fait 50 secondes qu'elle a passé la ligne van Vleuten, donc Vollering devrait arriver d'ici 2 minutes 30 à peu près. Elle avait un petit peu d'avance au général ce matin sur van Vleuten, donc pour l'instant
il y avait 17 secondes d'avance pour Vollering, voilà, sur van Vleuten au général ce matin. Ouais.
Donc ce sera, il y aura grosse domination, hein. il y aura peut-être 3 minutes au général, mais elle n'aura pas encore écrasé ce tour. On rappelle que demain ça arrive à la planche des belles filles. Avant il y a une montée de deuxième catégorie, puis une montée de première catégorie avant la super planche des belles filles. Donc c'est pas terminé, mais il va falloir aller chercher Annemiek van Vleuten. Je vais pas vous cacher que la cote de la victoire de van Vleuten est très très faible ce soir pour le classement général de ce Tour de France. Donc Demi Vollering va arriver dans quelques instants. Simon, elle est également sous la flamme rouge, et puis on attendra notre Française Juliette Labousse,
oui, qui était entre les deux Hollandaises au général au départ de ce matin.
Voilà, c'est ça. Elle était 7e, Juliette Labousse. Elle avait très bien couru. Je crois qu'elle était à 1,17 de Marianne Vos. On la sentait, elle est un poil stressée quand même lors des interviews. Elle ne voulait pas trop en dire ce matin au podium. Elle a pris le micro face au public. On lui a demandé un petit mot. Elle dit, c'est vrai que c'est un petit peu stressant. Ça fait un petit peu peur. C'est nouveau. Elle est à domicile. Elle est attendue. On parle d'elle dans les médias. Les supporters l'attendent. La montagne, c'est son domaine. Eh bien, elle répond présent. On la voit, Juliette Labousse, là, pour l'instant, enfermée entre la championne du Danemark, d'une équipe française, FDJ Suez Futur. Futuroscope, Cécile Utrup-Ludwig, et également une Polonaise, Katarina Niewiadoma. Ce qui est bien pour ces trois filles, c'est qu'elles ont semé, entre guillemets, Elisa Longo-Borghini, qui était quatrième, ouais, ce matin, et italienne. Sylvia Persico, qui était deuxième ce matin. Donc voilà, elles vont faire des écarts. Hein. Cette étape de montagne va faire de gros dégâts, et donc Juliette Labousse va arriver dans quelques instants, alors qu'on a également, normalement, Demi Vollering qui va passer la ligne d'ici peu, alors qu'Annemiek van Vleuten est arrivée déjà depuis 2 minutes et 35 secondes à 39 ans, hein. Faut se rendre compte de la longévité de cette femme et de son palmarès, de ses qualités encore à son âge. La coureuse de la Movistar, Demi Vollering, qui est le futur, clairement, 25 ans seulement, la néerlandaise de l'équipe SD Works, qui est en train d'en terminer dans cette très difficile étape, ici même au Markstein. Elle va passer la ligne, voilà, dans quelques secondes, Demi Vollering qui sprint. On va guetter les écarts. Simon, tu disais qu'il y avait 17 secondes d'avance pour Vollering, oui, ce matin au général par rapport à van Vleuten. Eh bien là on est à 3 minutes minutes 10 d'écart, elle n'a pas encore passé la ligne. Ça va sûrement faire du 3 minutes 17 à peu près, donc ça va être assez simple à calculer. Il y aura un petit peu plus de 3 minutes au général d'avance pour Van Vleuten face à Demi Vollering, qui en termine la bouche grande ouverte. On voit la grande souffrance de ces coureuses qui se sont beaucoup données. Il a fait chaud, elle passe la ligne. Demi Vollering, 3 minutes 27 secondes de retard sur Annemiek van Vleuten.
Annemiek van Vleuten, la coureuse hollandaise de la Movistar, qui était l'une des favorites de cette étape, une des favorites au départ de ce Tour de France Femmes de Paris dimanche dernier, qui a peut-être écrasé cette édition en remportant cette septième étape entre Célestat et le Markstein dans les Vosges, avec trois cols de première catégorie. Là, on ne pouvait pas se cacher, effectivement, évidemment. Merci beaucoup, Valentin, de nous avoir fait vivre cette passionnante
avec
fin
plaisir.
De course. Et évidemment, on se retrouve demain avec toi tout au long de la journée pour parler de cette arrivée à la super planche des belles filles et de la conclusion d'une magnifique édition de ce Tour de France 2022, Tour de France Femmes. Alors, pas le premier de l'histoire, hein, on n'a pas envie de se fâcher avec Jenny Longo, mais le premier labellisé à ESSO, hein, avec les organisateurs et tous les codes couleurs, tous les codes dans les profils des étapes, les maillots distinctifs, tout ça, plus aucune différence avec l'édition masculine, on s'en réjouit. Annemiek van Vleuten, donc, qui a peut-être remporté cette édition du Tour de France Femmes 2022. Que me dit la régie? On va se quitter quelques instants avant de retrouver, d'ouvrir notre page foot, c'est ça? Voilà, c'est ça. On va se quitter quelques instants. Et dans un instant, on va retrouver Arthur Perrault. Il était au Japon. Il est désormais en Israël parce que le Paris Saint-Germain ouvre sa saison demain. Trophée des champions demain face au FC Nantes. Il a suivi la conférence de presse de Christophe Galtier tout à l'heure. Il a les dernières infos, les dernières tendances pour la compo. Kylian Mbappé est suspendu. Mais on va voir qui Christophe Galtier a choisi d'aligner en attaque. A priori, Messi, Neymar. Mais qui sera le troisième larron? Ça pourrait être une surprise. On verra ça dans un instant avec notre spécialiste Paris Saint-Germain sur les traces du PSG. J'ai cet été Arthur Perrault. À tout de suite dans l'Intégral Sport.
RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
17h44, vous êtes bien sur RMC, c'est le retour, la suite de l'Intégral Sport. On est ensemble en direct jusqu'à 19h. Et bien après, ce sera au tour cette fois de Benoît Boutron. Vous suivrez en direct plusieurs rencontres, 8 rencontres de la première journée de Ligue 2, et notamment celle qui se déroule du côté de Bastia, du Havre, de Metz et de Bordeaux. Bordeaux repêché in extremis, qui va disputer effectivement cette saison de Ligue 2 après avoir été donc repêché cette semaine. On sera avec nos envoyés spéciaux pour vous faire vivre l'avant-match. Mais avant ça, on se projette sur le trophée des champions demain, PSG Nantes à Tel Aviv. Il était au Japon pour suivre la préparation des Parisiens, il est en Israël. Arthur Perrault cumule les miles et les infos pour vous sur RMC. On le retrouve tout de suite dans l'Intégral Sport. Salut Arthur.
Salut Simon, bonsoir à tous.
Demain Arthur, c'est le premier match officiel de la saison de foot de club en France. Premier test également pour Christophe Galtier à la tête du PSG. Objectif pour le nouveau coach parisien, valider une belle série de matchs amicaux jusqu'ici.
Exactement, avec des succès du côté du Japon pour le Paris Saint-Germain, avec un 3 sur 3 des succès contre le Gamba Osaka, les Urawa Reds et le Kawasaki Frontal. Il y avait aussi eu un match du côté du Camp des Loges face à Quevilly. Balayé aussi les incertitudes qui planaient autour de son arrivée au Paris Saint-Germain, et aussi confirmer ses nouveaux choix tactiques avec ce 3-4-1-2 qu'il a travaillé avec ce groupe depuis son arrivée. On a vu cette défense à 3 qu'il a mise en place avec, je vous redonne les noms, Ramos, Marquinhos et Kimpembe, un temps dépassé lors de certains matchs amicaux au Japon, notamment face au Kawasaki Frontal. Il faudra que ce schéma tactique-là fasse ses preuves dès demain soir pour ce premier match tant attendu ici en Israël.
Oui, a priori, il a toutes les armes pour dans son effectif pour mettre en place cette défense à 3. Il a les joueurs pour, et effectivement, il répondrait enfin à ce qui est resté un vœu pieux de beaucoup de supporters et même d'observateurs parisiens la saison dernière, qui disaient mais pourquoi Pochettino ne tente-t-il pas cette défense à 3? Peut-être qu'il a été effectivement ralenti dans son entreprise par la blessure de longue haleine, oui, de Sergio Ramos notamment, qui apparaît très en forme. Tu me confirmes?
Exactement, oui, c'est vrai qu'on l'a vu très affûté. Et d'ailleurs, l'entraînement parisien a débuté depuis maintenant un bon quart d'heure. Une nouvelle fois, beaucoup de bonne humeur dans ces séances mises en place par le staff de Christophe Galtier. On a vu un jeu de baladis à la main, beaucoup de sourires. Et à chaque fois que les joueurs échouaient, ils devaient faire des pompes. Et le seul qui réalisait les 10 pompes fixées par le staff, c'est Sergio Ramos, alors que les autres trichaient un petit peu. Et donc oui, c'est vrai qu'on le sent très à l'aise. Rennaise. Après, Christophe Galtier a été très réaliste dans ses dernières conférences de presse quand on l'a interrogé sur cette défense à 3. Et encore aujourd'hui, il a indiqué que il travaillait encore, qu'il y avait des petites erreurs, des petites choses à ajuster, qu'il faudra du temps, qu'il faut aussi trouver l'équilibre entre l'attaque et la défense. Il l'a dit très habilement pour préciser que ceux qui sont devant devront aussi faire un peu plus de repli défensif. Mais c'est vrai que là, il y a ce premier rendez-vous et il va falloir être là pour cette défense.
Un PSG lancé demain à Tel Aviv, le trophée des champions à Tel Aviv pour la deuxième année consécutive. Christophe Galtier, que vous entendrez évidemment dans l'afterfoot tout à l'heure autour de Nico Jamin, à moins qu'on ait déjà un petit extrait de l'entraîneur parisien. On va écouter Christophe Galtier, il parle de la victoire évidemment nécessaire et également de l'opération séduction, hein, parce qu'il n'y a pas que gagner dans la vie. Quand on est entraîneur du PSG, bah, faut séduire également.
Gagner, c'est un trophée. On en a parlé en début de saison sur les objectifs. Évidemment que tout le monde est focus sur cette fameuse Champions League. Mais la première des choses, c'est de mettre tout en œuvre pour faire en sorte de gagner les trois trophées.
Alors pour le coup, hein, vous l'avez entendu, le choix il est vite fait, hein, entre gagner et séduire. Hein, d'abord objectif la victoire pour le nouvel entraîneur parisien. Il est pas fou, hein, parce qu'on sait que ça fait tâche effectivement lorsqu'on arrive à la tête du PSG et que on se fait piquer le trophée des champions. On rappelle que oui. Paris avait été battu l'an dernier par Lille, hein, au même endroit, et que forcément ça complique toujours le début de saison des Parisiens. Même si on sait que c'est loin d'être une priorité quand on est le PSG, bon, ça fait toujours un petit peu désordre.
Oui, on peut aussi rappeler que le Paris Saint-Germain compte déjà 5 défaites en finale de ce trophée des champions. Pour vous redonner la règle aussi, depuis 1995, demain soir, s'il y a égalité à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes disputeront directement une séance de tir au but. Donc ça rajoute à la pression autour de cette rencontre, avec ces joueurs qui sont toujours à l'entraînement devant environ 150 spectateurs. C'est vrai que voilà, les joueurs sont concentrés. Christophe Galtier l'a bien répété dans cette conférence de presse. Je suis concentré, mes joueurs sont concentrés. Je les trouve très professionnels depuis que je suis là, et il les sent prêts pour ce rendez-vous.
Et on parlait avec toi en ouverture de cette page PSG du changement quand même, hein, pour Christophe Galtier qui fait face à son premier test, un match officiel oblige demain face au FC Nantes. On écoute le nouvel entraîneur parisien, évidemment interrogé tout à l'heure en conférence de presse sur cette nouvelle étape, cette marche qu'il franchit dans sa carrière.
Concentré, déterminé, mais à l'image de l'équipe. Évidemment, quand vous êtes l'entraîneur du Paris Saint-Germain, vous avez plus de pression qu'ailleurs. C'est un club qui a l'habitude de gagner des trophées et que ça serait très intéressant pour tout le monde, et même moi sur un plan personnel, de démarrer par une victoire et de remporter ce trophée. Vous dire que je subis une pression, non, elle existe, elle est permanente. On travaille pour gagner des trophées.
Alors pas de pression, mais ce serait intéressant pour lui de s'imposer, effectivement. C'est tout ce qu'on souhaite aux supporters parisiens et aux supporters de Christophe Galtier. Arthur, PSG Nantes demain à 20h, donc à Tel Aviv, trophée des champions. On a parlé de l'éventualité de cette défense à 3. Est-ce qu'on a plus d'infos sur la compo, et notamment devant? On rappelle que Mbappé est suspendu. Oui. On attend a priori Messi. Neymar, qui a fait une préparation intéressante. Qui sera le troisième larron pour accompagner ces deux-là?
Alors, on attend la mise en place au cours de cette séance d'entraînement. La logique dirait que la composition d'équipe qui a été choisie pour le dernier match amical au Japon face au Gamba Osaka sera reconduite pour cette rencontre, ce trophée des champions. Je vous la redonne, toujours dans ce système en 3-4-1-2 dont je vous parlais, avec Donnarumma dans les cages, qui a été confirmé comme gardien numéro 1, avec Navas comme numéro 2. La défense à 3, Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Au milieu, Hakimi à droite. La paire Verratti, Vitinha, la dernière recrue parisienne, qui s'est montrée très à l'aise d'ailleurs au Japon en fin de tournée, associé à Mendes qui sera sur son côté gauche, juste devant eux, Lionel Messi, et devant Neymar avec, et c'est là la seule peut-être incertitude, Pablo Sarabia.
Tiens, tiens.
Qui a été préféré lors de cette dernière rencontre, justement, dans l'archipel à Kalimuendo, qui avait pourtant montré de très bonnes choses lors de ses entrées en jeu. Il a été décisif à deux reprises. Mais l'Espagnol fait son retour sur le devant de la scène, et il pourrait une nouvelle fois être préféré à Arnaud Kalimuendo.
Il a réalisé un carnage absolu, hein, sous les couleurs du Sporting Portugal la saison dernière. L'Espagnol qui a déclaré que même si c'était pour être remplaçant, il y avait des des opportunités, qu'il était décidé à rester du côté du PSG.
Un Sarabia. 29 matchs, 15 buts pour lui du côté du Sporting.
Oui, et une vingtaine de passes décisives. Je crois que, bon, si ici il arrivait à effectivement rééditer ses performances de la saison dernière, ce serait quand même tout bénéfice pour Paris, n'en déplaise à Arnaud Calimundo, qui, bon, déjà, s'il reste dans la rotation de l'effectif du PSG, s'il arrive à y rester performant, ce sera très bien. Ces deux joueurs en forme, est-ce que ça pourrait nuire un Mauro Icardi? Bon, c'est déjà pas la folie pour le statut de l'attaquant argentin, mais en tout cas, il n'a pas été placé dans ce qu'on appelle un petit peu vulgairement le loft. Hein, il n'est pas soumis au traitement des indésirables, comme on dit au camp des loges. Est-ce qu'on sait s'il va rester l'argentin, Arthur?
Alors, le cas Mauro Icardi est très complexe de par le montant élevé de son transfert et de par aussi le montant très élevé de son salaire. On sait qu'il y a un intérêt depuis le début de ce mercato du club de Monza, mais le club italien demandait à ce que le Paris Saint-Germain prenne en charge 60% du salaire de l'attaquant italien. Il a été décidé de le faire venir ici en Israël dans le groupe de 22 hommes sélectionnés par Christophe Galtier, peut-être aussi. Et là, c'est une déduction parce que du côté du club de la capitale, on se rend compte que son départ sera très compliqué. Alors qu'en face, on a un autre groupe de 6 hommes qui est resté du côté du camp des loges. Je vous les redonne: Kurzawa, Wijnaldum, Herrera, Draxler, Rafinha et Thilo Kehrer, qui est le dernier entrant. Thilo Kehrer qui fait donc partie de ce groupe de joueurs écartés, peut-être aussi parce qu'on se dit que son départ est beaucoup plus avancé, avec là aussi des discussions avec plusieurs grosses écuries européennes.
Et contrairement au loft de la télé-réalité, dans le loft du PSG, on y rentre petit à petit au lieu d'en sortir les uns après les autres.
Oui, c'est un peu ça.
Merci beaucoup Arthur. PSG Nantes demain, Trophée des Champions, 20h du côté hors français, du côté de Tel Aviv, avec, vous l'avez entendu, une préparation. On attend une défense à 3 et pourquoi pas un Sarabia donc titulaire aux côtés de Messi et Neymar. Ce serait quand même l'événement, en l'absence, on le rappelle évidemment, de Kylian Mbappé. Merci beaucoup Arthur. Arthur, sur les traces du PSG en pré-saison, évidemment, on te retrouve très vite sur l'antenne de RMC et toute la journée de demain pour nous faire vivre cet avant-match dont on reparlera évidemment dans l'after foot tout à l'heure autour de Nico Jamin, effectivement à partir de 21h. Mais avant ça, le community sheet de français, c'est PSG Nantes demain, le trophée des champions anglais, c'est Liverpool City, c'est dans un instant au King Power Stadium de Leicester, puisque à Wembley demain c'est finale de l'Euro de foot féminin, Angleterre-Allemagne. Du coup, on joue à Leicester. On va retrouver Pierre Thévenet de la rédaction RMC Sport qui suit pour RMC cette rencontre. Salut Pierre.
Salut Simon, bonsoir à tous.
Pierre Thévenet, les yeux, les oreilles et la voix de RMC pour ce Community Shield. Eh bien écoutez, on retrouvera Pierre Thévenet un petit peu plus tard. Je disais avec un petit peu d'ironie, notre Community Shield à nous, ou leur trophée des champions à eux, bon, c'est la 100e édition hein, quand même de ce vénérable trophée qui a, on va pas se le cacher, un petit peu plus d'importance en perfide Albion que chez nous. Même si chez nous, on a tendance à l'oublier, hein, ça date quand même d'un petit moment, hein, ce trophée des champions. Il a été réhabilité par la Ligue de football professionnel en 95, mais c'est quand même la 55e édition. Alors je parle sans avoir vérifié mes infos, c'est pas bien, mais je crois que c'est la 55e édition demain de ce trophée des champions PSG Nantes à 20h, que vous vivrez évidemment en direct en intégralité. Ce Community Shield qui va démarrer dans un instant, Liverpool City, c'est aussi l'occasion de voir à l'œuvre les nouveaux joujoux en attaque hein, des deux managers Klopp et Guardiola.
Pour environ de Pierre Mingham.
Voilà. Écoutez, petit problème de son. Je le disais, les deux joujoux en attaque des deux managers. Darwin Núñez côté Liverpool. Alors, je crois que c'est Firmino hein, qui est titulaire pour les Reds. Mais Erling Haaland, hein, la machine à scorer norvégienne, qui a récupéré le numéro 9 de Gabriel Jesus. Du côté de Manchester City, le match qui va bientôt commencer au King Power Stadium de Leicester. Pierre n'est toujours pas là. Écoutez, Pierre Thévenet, qu'on retrouvera tout à l'heure pour vous faire vivre l'avant-match. On laissera son micro ouvert. Il vous donnera toutes les infos dès qu'il y aura des buts ou qu'il se passera quelque chose. Le Community Shield en Angleterre aussi. La saison de club reprend. L'Intégral Sport va se poursuivre dans un instant sur RMC. On fait une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour débriefer la défaite des Verts. Ça commence mal hein, pour Saint-Etienne qui a perdu lors de cette première journée de Ligue 2. C'était tout à l'heure du côté de Dijon, défaite 2-1 pour les joueurs de Laurent Batles. Ils comptent déjà en plus 3 points de retard, donc ils restent à moins 3 et seront, quoi qu'il arrive, encore derniers après cette journée. Et puis on va se projeter sur l'avant-match de plusieurs des 8 rencontres de cette première journée de Ligue 2. On ira notamment du côté de Bordeaux retrouver Nicolas Paul Orsi, Bordeaux-Valenciennes. On ira au Havre, le Havre-Grenoble, Christophe Lécuyer, Metz-Amiens avec Patrick Muller et puis Julien Pernici évidemment pour Bastia Laval. Tout ça, les avant-matchs et le débrief de Dijon-Saint-Etienne dans un instant dans l'Intégral Sport. À tout de suite sur RMC.
RMC
Intégral Sport.